Je suis à côté de la petite salle du Théâtre de Carouge, rue Ancienne, avec Nicolas Rossier. Bonjour.
Bonjour.
Et vous nous accordez de votre temps, parce que je sais que vous êtes très pris, pour le journal d'Anne Frank, l'adaptation que vous avez créée avec Geneviève Pasquier, du Théâtre des Os, à Givisier, et puis le spectacle est en tournée. Alors, ce qui marque dans votre adaptation, c'est que vous avez consacré le spectacle aux trois adolescents. Bien sûr, Anne Frank, sa sœur aînée, Margot, et son amoureux, Peter. C'était un choix de vous adresser particulièrement au public concerné, c'est-à-dire les adolescents et les jeunes enfants?
Alors, c'est parti par un souci, je dirais, en se penchant sur le texte, en le relisant. Bien sûr, c'est Anne qui parle. Et ses préoccupations, c'est des préoccupations d'adolescente, puisqu'elle a cet âge-là. Donc, en fait, son cercle à l'intérieur de ce confinement avec ces 8 personnes, elle est bien sûr bien plus en échange avec les gens de son âge, ou alors en contradiction, ou alors en conflit. Si vous voulez, les adultes restent quand même cantonnés dans quelque chose d'un peu comme quand on est adolescent. Je veux dire, c'est nos parents, le monde des adultes, c'est un monde très étranger à nous. Et il nous semblait beaucoup plus judicieux, déjà avec l'importance que donne Anne aux adultes, qui est quand même assez minime, de concentrer notre adaptation sur les trois ados. Parce que les adultes sont un peu à l'état de figure, je veux dire. Certes, elle décrit des disputes entre adultes, ce qui se passe, mais c'est un monde périphérique. Le centre, c'est Anne, et les noyaux les plus proches, si vous voulez, ce sont Peter et Margot.
Alors justement, vous parlez bien d'une adaptation de Jean-Anne Frank qui a souvent déjà été portée au théâtre, oui. Au cinéma bien sûr, même en bande dessinée.
J'imagine bien d'ailleurs, parfois très bien, des très belles bandes dessinées, oui.
Et j'imagine qu'il était difficile de faire la sélection, le choix des passages que vous vouliez conserver dans le spectacle. Comment avez-vous effectué vos choix?
Alors l'adaptation a principalement été faite par Geneviève qui a fait un premier tri. Au final, si vous voulez, on garde 10% du texte au niveau quantitatif. Mais au niveau de l'état d'esprit ou de ce qu'il en dit, on en garde bien évidemment bien plus. L'adaptation s'est faite donc d'abord, on avait une première base brute que je m'y ai faite, mais qui était beaucoup trop longue. Et ensuite, avec moi, avec les acteurs, enfin, c'est pas tellement les acteurs qui disaient on enlève ça ou pas, mais... Encore 2 semaines avant la première, on notait des textes, on essayait d'élaguer, de rendre la pensée plus pure, aussi parce qu'on ne voulait pas que le spectacle dure 2h30. C'est un texte effectivement compliqué à adapter parce que tout est important à ses yeux. Donc il faut trouver un peu la voie, suivre la chronologie quand même qui est importante, puisqu'elle passe 2 ans dans cette annexe enfermée. Tout le monde sait comment ça s'arrête. Mais peu de gens sont au courant de ce qu'elle dit. Souvent, les gens parlent d'Anne Frank en disant « Bon, on sait que c'est une petite fille enfermée, et puis ça se finit mal, et puis elle meurt. » C'est beaucoup plus que ça. C'est un texte, pour moi, c'est un des grands textes du XXe siècle.
D'une grande maturité, malgré son jeune âge.
Incroyable, incroyable. On ose imaginer ce qu'elle serait devenue en étant grande. Elle a des points de vue... complètement novateur pour l'époque sur la condition des femmes. On a l'impression que c'est sorti tout droit d'un pamphlet actuel. Enfin, je veux dire, c'est magnifique ce qu'elle dit. Elle est vraiment en avance sur son temps. Je pense grâce à l'instruction qu'elle a reçue de ses parents. Ses parents étaient très instruits. Son père la faisait beaucoup lire, mais elle était d'une vivacité, d'une acuité d'esprit phénoménale. Et c'est ce qui lui a permis... Enfin, ce qui nous intéresse là-dessus, c'est la dimension poétique, c'est par l'écriture, elle a réussi à échapper en quelque sorte à ses bourreaux. Et même si elle a été tuée par eux, son œuvre survit et restera peut-être même plus longtemps que le souvenir de ses tortionnaires.
Puis rappelons peut-être aussi que l'annexe, comme ils la décrivent, c'est quand même exigu, c'est 60 mètres carrés, oui. Au-dessus de ces dépôts. On peut visiter maintenant justement la Fondation Anne Frank, où on visite cette annexe. Donc c'était aussi une sorte d'échappatoire de pouvoir écrire et de pouvoir avoir une liberté, peut-être un espace à travers l'écriture.
C'est ce qui lui a permis de résister. beaucoup des adultes qui sont enfermés avec elle se mettent à déprimer, enfin n'en peuvent plus. Elle, par cet ami imaginaire auquel elle s'adresse, auquel elle adresse ses lettres, Kitty, elle réussit à s'envoler, elle réussit à toucher le marronnier qu'elle distingue que par un petit coin de fenêtre, encore à certaines heures de la journée. C'est vrai que cet espace était extrêmement exigu, imaginez-vous, quand même, à 8 là-dedans, les adultes fumaient, on ne pouvait pas ouvrir les fenêtres, on ne pouvait pas ouvrir les rideaux la journée de peur qu'on soit vu de l'extérieur, enfin, on ne pouvait pas faire de bruit quand l'atelier était ouvert en dessous, on avait peur d'être dénoncé, ils vivaient dans la peur, ils mangeaient peu, ça devait être vraiment affreux, quoi. Et surtout, ce qui est marrant, c'est qu'au départ, quand elle décrit l'installation dans l'annexe, c'est presque comme une colonie de vacances qui commence. C'est « Ah, on va bien s'amuser, je pense qu'on va passer de bons moments ici. » Mais ils ne savent pas à ce moment-là qu'ils vont y rester 2 ans. Et ça change tout.
Nicolas Rossi, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au travail avec les jeunes comédiens. Mmh. En fait, c'était presque une sorte de laboratoire. Vous avez fait un peu un travail interactif où ils pouvaient aussi vous montrer ce que ça donnait avant d'élaguer.
Non, c'est-à-dire on donne une grande place aux acteurs, c'est-à-dire j'écoute toujours ce qu'ils ont à dire parce que je ne m'estime pas plus intelligent qu'eux, mais si vous voulez, la décision ultime de toute coupe était prise par Geneviève et moi. La vision du spectacle, ce qu'on voulait en faire, elle nous appartient quand même. Néanmoins, on était très à l'écoute de certaines propositions de Judith qui disait « mince, ça, peut-être que ça serait quand même pas mal de le dire. » On tentait le coup, si c'était trop long ou pas, on ne regardait pas. C'était pas, si vous voulez, un atelier Anne Frank où on s'est tous mis avec mon ciseau et mon pot de colle. C'était quand même d'abord Geneviève, ensuite Geneviève et moi. Mais néanmoins, comme le travail était très, très intime, et que les acteurs devaient quand même jouer au plus près d'eux-mêmes, sans se prendre pour un Franck, bien sûr, ni les autres. Ils participaient évidemment à l'élaboration du travail final.
Alors vous parlez justement d'un travail intime. À propos d'intimité, vous avez choisi une mise en scène assez intimiste. D'après les extraits que j'ai vus, puisque je n'ai pas encore vu le spectacle en intégralité, vous avez choisi des sortes d'escaliers, des panneaux, pour montrer ce côté exigu.
Alors, en préambule à la préparation du spectacle, on est allé visiter donc la maison Anne Frank.
Avec les comédiens ?
Non. Et ce qui nous a surpris, en fait, c'est la raideur des escaliers. C'est quand même quelque chose qui est très typique en Hollande, puisque les maisons sont très, très en hauteur, et les escaliers ont souvent peu de rambardes et sont vraiment, vraiment dangereux. On a pu le voir pas seulement dans la maison Anne Frank, dans d'autres maisons, à l'hôtel où on était, enfin, un autre musée qu'on a visité. Enfin, c'est une constante. Donc, l'escalier casse-pattes que décrit Anne Frank me semblait primordial. Et effectivement, l'objet devait quand même. La scénographie devait quand même receler des surprises, c'est-à-dire à des moments, elle devait pouvoir s'ouvrir, on devait imaginer des étages. Elle ne devait pas être trop grande. On est parti, bon, vous le verrez, mais sur du blanc, parce que il va y avoir des projections, pas des projections modernes. On voulait éviter tout type de bimère moderne, donc on a pris les tout vieux rétroprojecteurs qu'on utilisait autrefois dans les écoles. Vous savez, c'est un système très, très judicieux de lumière renvoyée par miroir, et ça donne une sorte de et on a utilisé pour les images, et tout ce qu'on voit, c'est des transparents comme ceux qu'on utilisait autrefois. Pour rester aussi un peu au plus près de pour pas y donner un côté trop moderne. C'est-à-dire, notre démarche, elle est claire parce qu'on ne montre pas tous les adultes, on ne montre pas 8 acteurs en scène avec un décor, une table, une fenêtre, tout ça. Non, s'il fallait rester aussi dans l'abstraction et surtout toucher au plus près du bouquin, à mon sens.
Vous pouvez nous parler du choix des comédiens ?
Alors, forcément, ils paraissent l'âge du rôle. Ils ne l'ont pas, mais ils font très jeunes. On est parti de Judith pour Anne, plus qu'une ressemblance physique, parce que de ça on n'a jamais tellement parlé, c'est sa vivacité. C'est quelqu'un qui est très vif, qui enseigne, qui est une sorte de faux follet comme ça, donc ça nous semblait très juste par rapport à un côté plus réservé, plus serré un peu de sa sœur Margot. Margot, c'est donc Laurie Comtesse, avec qui on avait travaillé sur Les Acteurs de Bonne Foi, où elle jouait au contraire un personnage très solaire, très extraverti, mais comme elle est actrice, là, elle a pu faire autre chose, quelque chose de plus sérieux. On sent quand même, c'est bien sûr à la lumière de ce que Anne Frank écrit. Et puis Peter, c'est Yann Filippona, un jeune acteur qui sort de l'école des teinturiers et qu'on avait vu en scène et qui est une sorte de candeur juvénile qui nous semblait très, très approprié pour ce rôle. C'est vrai que le trio fonctionne très bien et il est intéressant de signaler qu'ils sortent de trois formations différentes. De l'école des teintureries, une autre de la manufacture et une autre de l'école Serge Martin à Genève. Donc c'est assez amusant.
Et qui sont en osmose, voire en symbiose?
Ah, complètement, dans le travail, complètement. Oui, complètement. Ouais.
Et quelques mots sur la musique, qui a un rôle aussi fondamental, le choix musical.
Oui, alors là, alors il y a des choix extérieurs, mais aussi une musique donc, qui a été composée par François Gendre, qui est un créateur avec qui on travaille beaucoup. Ce que j'adore chez lui, c'est qu'il assiste à toutes les répétitions, c'est-à-dire qu'il il imagine sa musique comme nous, notre mise en scène, et il avance au même rythme. Et ses propositions, pour moi, sont toujours pile dedans, quoi. Je veux dire, ou alors si elles ne le sont pas, il corrige très vite, enfin je veux dire, c'est...
Une adéquation.
Complètement, complètement. Et moi je suis très, très heureux de, comme toujours, je vais dire, mais très heureux du travail qu'il a fourni.
Il me semble que dans la démarche que vous avez effectuée avec Geneviève Pasquier, Nicolas Rossier, il y avait l'intention quand même de toucher aussi un public concerné, c'est-à-dire des préados, des adolescents. Est-ce que le choix de ce trio, justement, c'est pour leur parler? Parce qu'en fait, Anne Frank, on se souvient quand même qu'il y a une espièglerie, il y a une vivacité, elle est aussi totalement en désaccord avec sa mère, il y a une détestation de sa mère.
Bien sûr.
Donc beaucoup d'ados peuvent s'y retrouver aujourd'hui.
Assez clair qu'ils peuvent tout à fait se reconnaître dans les problématiques d'adolescente qu'elle avait, c'est sûr. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est qu'ils prennent conscience que le monstre noir n'est pas très loin. Je veux dire que ce qui se passe dans le monde aujourd'hui n'est pas forcément réjouissant.
C'était une de mes questions suivantes.
Que malgré Anne Frank, on en est encore là et qu'il faut se mobiliser, qu'il faut faire attention, qu'il faut réagir quand on peut. Qu'il faut aller voter, qu'il faut faire les choix. Et je veux dire, c'est le message que nous donne Franck. Parfois, les jours de déprime, on se dit, ça ne servit à rien. Et parfois, non. Parce qu'on voit l'engouement que suscite ce spectacle, l'émotion qu'il donne. Et je trouve ce qui est terrible quand même dans cette histoire, c'est que les premières victimes, c'est comme d'habitude, les civils, et parmi eux, les enfants.
Et on songe à la Syrie, bien évidemment.
Évidemment. Mais toute forme de guerre, tout conflit, je veux dire, c'est les premiers qui passent à la trappe. Alors qu'ils n'ont rien demandé, qu'ils n'ont rien voulu, que tout ceci les dépasse. Anne Frank, je veux dire, elle n'avait qu'une aspiration, elle voulait vivre et retourner à l'école. C'est ce qu'elle demandait, quoi. Et ça lui a été refusé par la folie et l'absurdité des adultes. Je veux dire, et la barbarie de certains, parce qu'on peut certes faire la guerre, mais parfois on peut la faire de façon peut-être plus propre que ce qui s'est passé en 1945.
Oui, justement, vous avez anticipé sur une de mes questions, c'est-à-dire que reprendre, adapter le texte d'Anne Frank aujourd'hui, avec ce qui se passe, on songe à la Pologne, à la Hongrie, au Brésil, enfin, à travers le monde, il y a cette resurgence du populisme et des mouvements d'extrême droite, avec les spectres corollaires. Donc c'est aussi un acte politique de reprendre ce journal avec ce que ça implique. On connaît la finalité, donc c'était aussi un devoir de mémoire.
Oui, bien sûr. Bon, pour moi, faire du théâtre devrait être déjà à la base un acte politique. Je trouve qu'en Suisse, ça l'est déjà. Mmh. C'est-à-dire, avec les difficultés qu'on rencontre et ce qu'il faut faire. Après, le choix des textes, je ne vais pas chaque fois monter des Anne Frank ou des récits sur la Shoah, mais ce texte-là m'a tellement touché. Je trouve que le remettre au théâtre, et j'avais le souvenir d'adaptation, mais un peu confiné, où on fait un peu une scène avec tous les personnages. Et je trouve que l'essence même du livre, c'est pas ça. L'essence même du livre, c'est vraiment la pensée de cette petite fille, la pensée en marche et la pensée qui s'oppose. Et ça m'intéresse. Donc c'est pour ça qu'on voulait éviter le monologue, parce que c'est quand même un peu triste. Mais le trio d'ado, je trouve que ça donne parfaitement le sens de ce qu'on voulait dire.
Alors, si je ne me trompe pas, il me semble qu'Otto, le seul survivant de ces 8 personnes, voilà, il est venu ensuite en Suisse. D'ailleurs, il y a une fondation à Bâle, Anne Frank, et la grande spécialiste d'Anne Frank, qui était en fait un peu la récipiendaire du texte, qui est décédé, il me semble, en janvier 2019.
Oui. Alors, en fait, oui, Otto Frank a redécouvert sa fille en lisant son journal.
Donc, il a un petit peu amputé quelques passages.
Oui, voilà. Bon, il y a eu plusieurs histoires avec ce livre, mais finalement, aujourd'hui, on a l'intégrale. Après, il l'a fait pour des raisons d'époque où il y avait quand même des choses assez crues, qu'elle écrivait sur sa sexualité, qu'il ne voulait pas donner. Enfin, il faut mettre ça dans son contexte. Je n'ai pas l'impression qu'il a voulu censurer sa fille, au contraire. Puisqu'il a la nouvelle mission de sa vie, après avoir vendu de la pectine pour confiture, c'était de diffuser ce livre au maximum. Et c'est vrai que, comme il y a eu un arrêté au niveau des droits d'auteur pour Anne Frank, qui n'est pas encore dans le domaine public, si vous voulez le monter, il faut passer par la fondation qui va se charger de valider, si vous voulez, votre adaptation. Franchement, je n'ai pas vu ça comme une contrainte. J'ai eu en face de moi des interlocuteurs intelligents et qui étaient juste animés par un devoir de mémoire où vous n'avez pas envie qu'on fasse n'importe quoi. Mais ce que je peux tout à fait comprendre, mais je n'ai pas senti d'opposition terrible ou de non, vous ne pouvez pas dire ça, au contraire, on a eu une pleine liberté, mais dans un cadre donné, c'est-à-dire que notre adaptation devait être visée par eux, mais franchement, je trouve ça normal.
Et comme je mentionnais en début d'interview, Nicolas Rossier, vous êtes actuellement dans la petite salle du théâtre de Carouge, et le spectacle est en tournée en Suisse romande, vous allez encore aller à Lausanne, il y a également une exposition itinérante qui accompagne le spectacle, destiné essentiellement aux scolaires. Oui. Vous pouvez nous en parler?
Oui, alors cette exposition, c'est la Maison Anne Frank d'Amsterdam, c'est la Fondation à Bâle et la Maison Anne Frank d'Amsterdam, qui fait une exposition itinérante qui est intégrée dans des gymnases. Et le propre, la caractéristique de cette exposition, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un de la Maison Anne Frank d'Amsterdam qui vient former quelques élèves volontaires à être guide de cette expo. Et cette expo, donc, je l'ai vue avant de monter le spectacle. Elle était assez fondamentale dans la dramaturgie du spectacle. C'est-à-dire, elle m'a confirmé que le choix de concentrer les choses sur les 3 ados était juste en voyant ces ados faisant visiter l'exposition Anne Frank à leurs copains.
Et pour l'instant, vous pouvez nous parler de la réception, justement, du public cible, les ados, les pré-ados?
Alors, je dois dire qu'ils sont souvent assez bouleversés, mais un peu comme les adultes. Je trouve que ce texte, ça se cite fort, c'est-à-dire qu'il nous secoue. C'est-à-dire, on nous parle de façon intelligente, sensible, douce, enjouée. Je veux dire, on a un cri de vie, c'est ça. Et ça, je dois dire, en ayant lu le livre à l'adolescence, je ne m'en étais pas aperçu. C'est en le relisant aujourd'hui avec l'âge collé que j'ai, que je me suis dit, mais en fait, c'est un magnifique cri d'espoir, c'est un magnifique message. y a de la vie, ça bouge, il y a du sang, elle a des aspirations, elle a une intelligence phénoménale, et c'est pas qu'une petite fille sacrifiée, c'est heureusement bien plus que ça.
Avec des échos, bien sûr, avec l'heure actuelle.
Oui, des résonances tragiques auxquelles tout le monde peut penser.
Alors, Nicolas Rossi, vous deviez nous consacrer un peu de temps avant la représentation de ce soir. Merci beaucoup
merci
de
nous
avoir rencontrés.
Merci de votre intérêt.
Et merci, bon succès encore aux dernières représentations de la tournée.
Merci.
Merci.